Sécurité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Patrick Bacard qui vient de publier « À vos marques, prêts, bougez et sportifiez-vous, la santé et le bien-être par l'activité physique », un livre qui est paru aux éditions Chiron. Et pour terminer, nous verrons comment se débarrasser des poux. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Sophie Mallet, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous êtes réalisatrice à Radio France Internationale. Vous avez pratiqué du sport à un haut niveau. Vous avez fait de la natation synchronisée en compétition. Alors à partir de quel âge et pendant combien de temps ?
J'ai commencé à nager réellement, j'avais une dizaine d'années. J'ai commencé à faire de la natation synchronisée, j'avais 12 ans. Et je me suis arrêtée vers 22 ans.
Alors combien d'heures par jour ou par semaine ?
On va dire à peu près 2 heures, 3 heures par jour. Ça, c'était variable, mais c'était à peu près ça.
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés et à quel moment ? Est-ce que ces problèmes d'abord sont apparus pendant que vous étiez en entraînement ?
Non. Les problèmes sont arrivés après. Une fois que j'ai arrêté. En revanche, on m'avait prévenu. On me demandait de faire attention. C'est vrai que la natation synchronisée, c'est un sport un peu particulier. Donc, j'étais dans l'eau 2 heures par jour. A priori, il faut s'entraîner avec un pince-nez. Ce que je ne faisais pas, et ça fait partie des petits soucis que j'ai aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on me disait il faut faire attention à ces sinus, il faut faire attention quand on est dans l'eau, et ça c'est un des problèmes que j'ai découvert après.
Alors qui se manifeste comment aujourd'hui pour vous ?
Moi, qui se manifeste par des sinusites assez douloureuses, qui durent assez longtemps, parce que le fait d'être dans l'eau, d'avoir de l'eau chlorée qui rentre dans le nez, je pense, et c'est un des diagnostics des médecins que j'ai rencontrés, que les sinus qui sont en fait des éponges qui servent un peu à protéger, sont abîmés par le chlore et par aussi toute l'eau qui ont pu rentrer, on va dire, dans mon nez.
La pince dont vous parlez, simplement un pince-nez pour éviter que l'eau rentre, c'est ça le principe ?
Exactement.
Et alors, ça prouve bien que quand on est jeune, adolescente et qu'on vous donne ce genre de conseils, comme pour l'instant vous n'aviez pas mal, pas de problème, vous ne voyez pas du tout pourquoi suivre les conseils.
Exactement. On s'en fiche. Enfin, je m'en fichais totalement. Et puis, c'était un des critères qui me permettait enfin de me démarquer de mes autres amis ballerines, c'est que je nageais sans pince-nez, j'étais plus forte que les autres, je souriais en compétition d'une autre façon puisque
c'est plus joli,
voilà.
On imagine. Hein.
Et donc je m'en fichais totalement et ça participait de ce qui faisait que je me démarquais un peu des autres.
Donc premier problème, ce sont les sinus. Quels sont les autres problèmes que vous avez rencontrés ?
Les problèmes que j'ai découverts après, à partir de 25-28 ans, c'est que je suis hyper laxe. C'est-à-dire que je suis, pendant des années, je me suis entraînée à la fois en nageant, mais également en faisant de la danse, en faisant un peu de gymnastique. Et que j'apprenais à faire des figures un peu comme une danseuse, mais sans être suivie par une danseuse professionnelle, on va dire. Et du coup, j'ai extrêmement tiré sur
les
muscles, les tendons. J'étais capable, j'étais extrêmement souple. Le souci, c'est qu'à partir de 25-30 ans, quand j'ai arrêté vraiment, enfin, j'ai abandonné le sport à haut niveau, les muscles se sont un peu détendus, mais les ligaments sont restés comme des élastiques un peu distendus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me déboîte le dos assez facilement, mais bon, je n'ai plus le même âge et du coup les choses, je les sens, enfin je me fais mal au dos.
Docteur Bacard, je voudrais votre réaction à ce témoignage de Sophie.
Écoutez, Sophie résume bien les problèmes que l'on rencontre lorsque l'on suit l'épaule de haut niveau. Il y a une discordance entre l'objectif de performance, la manière d'y arriver et puis les précautions de santé. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement avait légiféré, on se souvient la loi Buffet et puis la loi Lamour, où il y avait une surveillance obligatoire des sportifs. Et comme beaucoup de sportifs, comme Sophie, un certain nombre de sportifs faisaient tout pour échapper à ce contrôle, dans la mesure où on était peut-être des empêcheurs de tourner en rond. Je voudrais quand même faire une parenthèse. Hein. L'histoire de Sophie, ce n'est pas l'histoire de monsieur et madame tout le monde.
C'est important de le préciser.
C'est important de le préciser. si je résume bien, et elle ne va pas me contredire, c'est hors compétition, près de 20 heures d'entraînement par semaine. Nous demandons simplement aux sportifs, aux adolescents, de faire une heure par jour, c'est-à-dire de faire en gros 6 à 7 heures semaine. Donc, on n'est pas dans le même cas d'espèce.
C'est ça. Donc, ce qu'il faut nommer, c'est important ce que vous dites là, parce que on est en train là de parler avec Sophie de sport de haut niveau. C'était pas du tout ce dont on parlait en début d'émission. Et quand on fait du sport simplement pour s'entretenir physiquement, on ne doit pas rencontrer les problèmes.
On ne doit pas rencontrer ces problèmes-là, bien entendu.
Une dernière question, Sophie. Au moment où vous avez arrêté ce sport de haut niveau, donc vers 22 ans à peu près, comment vous êtes-vous sentie à ce moment-là?
Aujourd'hui, avec le recul, je sais que je me suis sentie extrêmement mal. Avec 25 ans de recul, je pense que j'ai fait une énorme dépression. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que peut-être on en parlait moins, parce qu'on ne savait pas à l'époque où on parlait pas du tout des effets de la sérotonine qu'on est capable de créer quand on fait du sport et a fortiori à haut niveau. Mais je pense que j'ai fait une énorme dépression pendant quelques années et j'en ai subi les conséquences. Oui, j'étais très très mal. Je pense que c'est lié à ça. Aujourd'hui, je peux le dire.
Docteur Bacar, une réaction?
Oui, je vais expliquer deux secondes, si vous voulez bien, Clérindon, ce que c'est que la sérotonine, pour que nos auditeurs comprennent bien. C'est une hormone qui est sécrétée à partir du moment où on pratique un sport dans des limites supérieures à ce qui est raisonnable. Et on devient dépendant. C'est une drogue, c'est une addiction. Et cette sérotonine nous donne une sensation de bien-être. Mais pour être bien, on en fait plus. Et on en fait toujours plus. Donc on devient complètement dépendant de notre sport.
Et cette sérotonine, on ne la sent pas simplement nous quand on se remet à une activité sportive, non?
Bon, c'est un petit peu ce qu'on ressent. C'est-à-dire que ce qu'on recherche pour le bien-être, on essaye d'avoir des sensations. Et les sensations sont un peu liées à cette sécrétion de sérotonine. Mais dans des normes, ce qu'on va appeler, un terme un peu scientifique, physiologique. C'est-à-dire que ce seraient des normes...
Normales.
Normales, voilà.
Sophie Mallet, merci. On vous laisse retourner à votre travail à RFI. Merci beaucoup d'être venue témoigner. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons des bienfaits du sport pour la santé avec le docteur Patrick Bacar. Docteur Bacar, les auditeurs sont très nombreux à appeler pour vous poser des questions. Alors si vous voulez bien, on va essayer de leur répondre. On a Baïda qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Baïda, bonjour.
Bonjour Clérindon, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Alors ma question est la suivante. Je voudrais savoir s'il y a un certain nombre de maladies ici qui empêche la pratique du sport. Parce qu'en Afrique, nous avons souvent ce genre de problèmes. On pratique le sport, on aime bien, mais en même temps, les médecins nous font comprendre souvent qu'il y a un certain nombre de maladies qui empêchent la pratique du sport. J'aimerais savoir lesquelles.
C'est important votre question parce que c'est toujours ce qu'on craint à l'âge adulte quand on veut reprendre du sport. On se dit, mais est-ce que je peux? Alors, docteur Bacar, c'est pour ça que vous conseillez d'ailleurs une consultation médicale avant.
Oui, oui. Il faut toujours, si on est malade, et c'est le cas de la question de votre auditeur, en parler à son médecin. Et lui exprimer notre désir, c'est-à-dire que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'aller nager, j'ai envie de courir, d'aller faire du vélo, je veux aller danser, par exemple. Et est-ce que ma maladie me permet? Il faut quand même savoir, on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut différencier sport et activité physique. Quelquefois, certaines maladies vont empêcher une pratique sportive, comme celle de Sophie, l'approche du haut niveau, mais ne va pas du tout empêcher de courir, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, un petit footing d'un kilomètre, ou faire un peu de vélo, ou natation. Donc, il faut différencier.
Ou monter les escaliers à pied.
Alors, ou monter les escaliers et ne pas prendre l'ascenseur. Vous avez tout à fait raison. Ou descendre un arrêt de bus avant ce que l'on prend habituellement. C'est ça. Marcher, bouger, c'est toujours bon pour la santé.
Mais est-ce qu'il y a des maladies précises qui empêchent la pratique?
Oui, il y a malheureusement quelques rares contre-indications. On le sait très bien, des contre-indications cardiaques, par exemple, où des gens ont une insuffisance cardiaque telle que si, ou un trouble du rythme, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou si l'on faisait faire un travail qui accentue trop l'activité du cœur, donc en donnant une activité trop rapide, ils auraient un danger de mort subite. Mais ce sont des cas rares. On sait aussi qu'il y a quelques asthmatiques, qu'on appelle des asthmatiques d'effort, qui vont provoquer donc un étouffement par cet asthme d'effort, et donc ceux-là ne pourront pas, sans des conditions de contrôle strict, pratiquer leur sport. Vous voyez donc, les pratiques
mais
sont...
Mais c'est rare.
C'est rare.
C'est
voilà.
Important.
Vous avez tout à fait
c'est
raison.
Ce n'est pas une bonne excuse pour ne pas faire du
ce
sport.
Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire.
Merci
voilà.
Beaucoup, Baïda, pour votre téléphone. Et on a Mamadou qui nous appelle de la région parisienne de Villeneuve-Saint-Georges. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, j'ai un souci. Quand j'ai fait la course, quand j'ai fait des efforts physiques, je ne transpire pas. Je ne sais pas pourquoi.
Et alors, vous voulez savoir si ça pose problème. Alors, docteur voilà. Bakar, quand on fait du sport et qu'on ne transpire pas...
Ça, c'est très, très intéressant. Parce que je vais vous dire que vous transpirez sans le savoir. Et c'est le danger. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils font une activité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monter quelques escaliers, ils ne vont pas monter les escaliers parce que quand j'arrive en haut, je transpire et ce n'est pas très bien parce que je me rends au travail. Et puis, il y a ceux qui vont faire une activité physique et ne vont jamais transpirer. En fait, on transpire, mais il y a une évasion autre qui se fait par les pores de notre peau et ça ne s'exprime pas en eau qui coule. Mais nous déshydratons. Ce qui fait que l'on conseille toujours, même ces gens qui ne transpirent pas ou qui ont l'impression de ne pas transpirer, de bien s'hydrater et de ne pas mettre aussi des vêtements imperméables pour faire un effet sauna. Vous savez, je perds du poids, donc je cours avec kawé, etc.
On perd que de l'eau dans ces cas-là.
On perd que de l'eau, c'est dangereux, on se déshydrate. Donc, même si l'on ne constate pas cette transpiration qui perle sur la peau, sachez que vous transpirez autrement. Ça s'évacue dans l'air.
Est-ce qu'il faut boire avant l'activité sportive ou après, au contraire?
Oui, je pense qu'il faut se réhydrater en permanence. De toute façon, même au travail, il est toujours conseillé, si l'on peut, de façon générale, de s'hydrater régulièrement. Tout dépend un petit peu de l'activité. Si nous faisons une activité qui va être en dessous de 35 minutes, on peut se réhydrater après l'effort. Il faut se réhydrater largement de l'eau, bien entendu. Hein, l'eau
on est
minéralisée,
bien d'accord.
Bien entendu. Hein. Par contre, si l'on commence à faire une activité un peu plus longue, il est conseillé de boire quelques gorgées avant de partir. Et puis après, on peut, les sportifs le savent bien, il y a maintenant des ceintures avec des gourdes intégrées. Il y a des moyens de boire pendant l'effort. Mais c'est toujours tous les 20 minutes, 15-20 minutes, 3 gorgées, pas plus. Il ne faut pas non plus se rendre plus lourd hein, et qu'il y ait cette gêne avec cette eau que l'on a ingurgitée. Donc il faut boire.
Il faut boire. Mamadou, merci beaucoup pour votre question. Et on a Aminou qui nous appelle du Cameroun. Aminou, bonjour.
Bonjour, Claire.
Nous vous
bonjour,
écoutons.
Docteur.
Bonjour, Aminou.
Oui, moi, ma question est... Moi, j'ai 25 ans et j'avais laissé le sport, de pratiquer le sport. J'ai commencé de prendre poids. Tout le monde me demande, il faut recommencer le sport. Et j'ai recommencé, je n'arrive pas à courir. Si je cours un peu, Mais comme si j'ai une arrêt cardiaque ou quoi.
Qu'est-ce que vous voulez dire,
beaucoup,
Aminou, je suis pas...
Aminou,
excusez-moi de vous interrompre, mais je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre bien ce que vous dites. Vous dites que vous avez un problème au cœur quand vous faites du sport, c'est ça?
Oui, aussi, j'ai pris du poids.
Ah, et vous avez pris du poids, c'est ça. Vous avez pris du poids.
Tout le monde me demande de recommencer le sport, de pratiquer le sport.
Mais vous vous demandez quel sport faire quand on a justement pris du poids. Oui. Docteur Bakar, cette question elle est importante parce qu'on conseille justement de faire du sport pour éviter le surpoids. Mais quand on est en surpoids, qu'est-ce qu'on peut reprendre comme activité sportive?
Alors c'est une excellente question parce que beaucoup de gens vont associer régime avec sport. Il faut bien savoir que l'activité physique seule ne va pas suffire pour perdre du poids. Même si l'on consomme bien sûr des calories, puisque nous travaillons nos filières, c'est-à-dire que nous consommons ce que nous avons mangé. Il faut aussi avoir une alimentation adaptée et équilibrée. Donc il ne faut pas rester sur les mêmes mauvaises habitudes. Donc il faut essayer d'abord voir un médecin, et si vous êtes essoufflé, aussi un problème de cœur, le médecin, dans l'évaluation, l'entretien cardiaque, il va peut-être vous demander de réaliser une épreuve d'effort pour voir si vous êtes apte à faire.
C'est quoi cette épreuve d'effort?
Alors l'épreuve d'effort, c'est simple, ça se fait en cabinet cardiologique, en clinique, et tout simplement, on demande aux gens sur vélo ou sur tapis roulant de reproduire un effort, et on enregistre leur effort pour voir si le cœur s'accélère normalement, si ces sujets n'ont pas d'hypertension pendant l'effort, et si, là, c'est plus technique, on fait un enregistrement de leur cœur, ce qu'on appelle un électrocardiogramme à l'effort, voir s'il n'y a pas de problème de coronaire. Parce que l'on sait très bien que la première contre-indication, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les vrais problèmes cardiaques ou les problèmes cardiaques masqués. Bien. À partir de là où on a une sécurité et on a eu le feu vert, il faut le reprendre progressivement. Il n'y a pas de honte à faire aujourd'hui 10 minutes, de refaire demain 12 minutes, et on va se réadapter tout doucement à l'effort. Et vous verrez, je pense qu'avec un peu de patience, eh bien, non seulement il y aura ce confort, et puis il y aura parallèlement une perte de poids.
Et est-ce qu'il y a des sports plus conseillés quand on est en surpoids?
Oui. Les sports, c'est un peu compliqué également, mais vous avez deux types de sports. Vous avez les sports qui sont finalement dans nos filières énergétiques confortables. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut chanter, parler pour ne pas être essoufflé. Puis vous avez les sports qui sont dans des filières non confortables, qui sont des sports plus saccadés. Par exemple, le football, comme le disait tout à l'heure le professeur Benhamid, n'est pas le meilleur sport pour perdre du poids, puisque c'est un sport qui est haché, il y a des démarrages, etc. Par contre, les sports d'endurance, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas brutaux, la marche au départ, la marche lente, puis après la marche rapide, ou la marche nordique avec des bâtons, le footing léger, on peut faire un footing à 8-9 km/h, le vélo, et la natation. Voilà les sports qui ne seront pas dangereux pour le cœur et qui vont mobiliser des filières pour perdre du poids, donc pour consommer de l'énergie. Parce que ce qui est sous-jacent derrière, c'est de consommer de l'énergie. Et comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, et j'avais oublié de vous le préciser, monter des escaliers fait partie d'une activité physique recommandée.
C'est ça, monter des escaliers, marcher. Hein, c'est
marcher,
quelque chose d'important
marcher.
Que vous avez dit.
On essaye, même chez soi, on ne prend pas l'ascenseur. D'ailleurs, il y avait une étude canadienne où ils avaient donné des post-it, et on mettait ces post-it à côté du bouton, pour que les gens aient le réflexe en disant... Voilà. Et il est marqué, n'appuyez pas sur le bouton, prenez l'escalier.
Merci voilà. Beaucoup Aminou pour votre question et donc bon courage pour reprendre le sport. On va prendre une dernière question, il y a Vladimir qui nous appelle de Guinée-Bissau. Vladimir, nous vous écoutons.
Bonjour Claire, bonjour professeur. Moi j'ai des problèmes. Quand je fais du sport l'après-midi, je dors très mal. Et au contraire de l'auditeur précédent... Quand j'arrête pendant un certain temps de faire du sport, je fais beaucoup de footing, je maigris davantage au lieu de perdre du poids. Merci.
Alors, docteur Bakar, cette question est importante. C'est à quel moment de la journée il vaut mieux faire du sport? Et le sport en fin de journée, est-ce que ça n'empêche pas de dormir?
Oui. Le sport en fin de journée, en activant... Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la sérotonine. Bien, la sérotonine, c'est une hormone activatrice, et donc on est un petit peu en éveil. On est un peu plus en éveil. Donc on a besoin de se relaxer après avoir fait du sport, de faire quelques étirements, de prendre une bonne douche, et de faire un petit peu retour sur soi-même, le retour à zéro, pour que le corps s'endorme. Et c'est vrai qu'un certain nombre de pratiques sportives gênent un petit peu l'endormissement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et surtout, quand on a fait une pratique sportive avec un petit enjeu au tennis, on a fait un petit match avec ses amis, on l'a perdu.
On est un peu excité.
On est excité, on repense à ce qu'on n'a pas dû faire. Voilà, donc ça fait partie un petit peu de l'excitation. Mais rassurez-vous, hein, c'est quand même de la bonne excitation. Hein.
C'est ça. Et voilà. C'est pas, alors, le fait que Vladimir ait du mal à s'endormir quand il fait du sport le soir, c'est pas une bonne excuse pour ne pas faire de sport.
Ce n'est pas une bonne excuse.
Il faut le faire le matin.
Et c'est surtout pas une bonne excuse pour prendre après un somnifère pour mieux dormir, hein, surtout pas.
Donc,
il vaut mieux le faire le matin. Après, on est rythmé par rapport à son travail. Et aussi, il ne faut pas oublier quelque chose qu'on n'a pas précisé. Il ne faut pas le faire à jeun, le sport.
Donc,
c'est important. Donc, quand on fait du sport le matin, il faut pouvoir avoir pris un petit déjeuner pas forcément copieux, mais au moins une collation dans les heures précédentes. Donc, on ne fait pas de sport à jeun.
Vladimir, merci beaucoup de nous avoir appelés. Docteur Patrick Bacard, vous restez en ligne. On va parler maintenant de la lutte contre les poux. Vous savez que c'est un problème souvent à la rentrée. Vous restez en ligne parce que je vous poserai une dernière question sur les conseils que vous nous avez à nous donner avant de reprendre une activité sportive.
D'accord. Priorité santé sur RFI.
Pour terminer donc cette émission, je vous propose de voir comment se débarrasser des poux avec le docteur Estelle Roux, qui est dermatologue à Paris. Docteur Roux, bonjour.
Bonjour.
Ces problèmes d'abord de poux sont-ils fréquents?
Oui, les problèmes de poux sont très fréquents. On estime à environ 40% les enfants entre 6 et 8 ans atteints par la pédiculose. Les poux infectent bon nombre d'écoles partout en France.
Et pourquoi justement c'est si fréquent?
C'est si fréquent parce que c'est extrêmement contagieux, si on peut dire. Les poux passent d'une tête à l'autre. Donc la contamination entre les enfants est très facile. Donc la propagation des poux est très rapide, très facile. Et puis après, il n'est pas toujours très facile non plus de s'en débarrasser.
Alors justement, pourquoi c'est difficile de s'en débarrasser et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner?
Alors, il est difficile de s'en débarrasser parce que les traitements classiques...
C'est-à-dire que le poux est devenu résistant au traitement. Le poux est devenu plus fort.
Comme les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, les poux mutent, connaissent des mutations et deviennent résistants aux insecticides qu'on leur applique depuis de nombreuses années. D'une part, il y a cette résistance donc, qui rend le traitement difficile. D'autre part, parce que quand on traite les poux, on traite les poux, mais on doit traiter les lentes aussi, qu'il est assez difficile de se débarrasser des lentes. Et tant qu'il y a des lentes sur la tête, les lentes, ce sont les œufs des poux, les lentes éclosent au bout de 7 à 10 jours et de nouveaux poux sortent. Et donc, en fait, pour réussir à vraiment débarrasser une tête des poux, il faut traiter toutes les semaines, c'est-à-dire c'est le cycle d'éclosion, toutes les semaines jusqu'à la disparition totale de toutes les lentes. Car tant qu'il reste une lente, un nouveau poux va sortir au bout de 7 à 8 jours.
C'est ça, le conseil de base à donner, hein, c'est de suivre le traitement suffisamment longtemps. C'est vraiment ça, autrement ça réapparaît.
Vraiment traiter, alors pas tous les jours, mais une fois par semaine, jusqu'à la disparition totale de toutes les lentes. Et puis ce qui est important aussi, c'est que toute la famille soit traitée, car les grands frères, les grandes sœurs, ou éventuellement les parents peuvent aussi avoir été contaminés. Et après, au sein même de la famille, il peut y avoir des recontaminations. Donc toute la famille doit être traitée en même temps, au rythme d'une fois par semaine, voilà, jusqu'à ce que tout le monde soit débarrassé de toutes les lentes.
Docteur Roux, une dernière question, pourquoi ça gratte autant?
Ça gratte parce que les poux qui sont sur le cuir chevelu vont se nourrir d'une part du sang de la tête et d'autre part ensuite émettre des déjections qui sont irritantes pour le cuir chevelu. Donc il y a des réactions d'irritation et d'allergie qui déclenchent les démangeaisons.
Docteur Estelle Roux, merci. Hein. Je rappelle donc que vous êtes dermatologue à Paris. On a bien entendu votre conseil. Quand on commence un traitement, il faut le suivre suffisamment longtemps pour que les lentes aient complètement disparu. Docteur Patrick Bacard, vous êtes encore en ligne avec nous hein, de Lille. Donc je voulais terminer avec cette question. Quels sont vraiment les conseils à nous rappeler importants pour redémarrer ou exercer une activité sportive?
Eh bien, pour démarrer, il faut en premier lieu évaluer ses conséquences de pratique. Donc, il faut évaluer son niveau de pratique. Donc, soit l'on le fait soi-même, soit on demande de l'aide d'un médecin. Deuxièmement, il faut aussi se déterminer pourquoi j'ai envie de bouger et comment je vais bouger. Est-ce que je veux faire un sport collectif, un sport individuel, le faire en famille, le faire pour le plaisir, le faire pour maigrir ou le faire tout simplement pour me sentir en forme? Donc ça, c'est important parce que beaucoup de gens zappent et ne font rien. Donc, c'est aussi se dire, pendant mon emploi du temps, comment je peux intégrer cette pratique sans que ce soit une gêne supplémentaire. Donc, la proximité, pratique sportive, proximité du travail ou proximité du domicile. Et puis, enfin, l'équipement. Choisir un bon équipement adapté à ce qu'on va essayer de pratiquer. Et enfin, si l'on le peut, dans un club, avec des conseils de spécialistes et des pros, qui apporteront, bien sûr, un soutien et une aide pour pérenniser cette pratique. Parce que le danger à la rentrée,
c'est de prendre des résolutions.
Des résolutions qui ne sont jamais tenues. Voilà, vous avez tout à fait raison.
Bah oui, on est tous pareils.
On est tous pareils, oui.
Vous en faites régulièrement, vous, du sport, j'imagine.
Oui, j'en fais une. Et puis j'ai aussi une petite manie, c'est marqué dans le livre et puis sur le site internet que j'anime. J'ai un podomètre constamment dans ma poche. Et pour venir justement dans les studios de France Bleu Nord, je suis parti de mon cabinet et puis j'ai vu que j'avais fait 6500 pas. Donc j'étais content parce que nous conseillons 10 000 pas par jour.
Donc voilà. vous avez déjà fait une bonne partie de ce qui est conseillé.
Voilà, je n'ai pas pris la voiture, je n'ai pas risqué un procès verbal et puis je suis venu à pied, tout à fait.
Donc,
voilà, Claire.
Le site internet que vous avez cité, hein, il sera bien sûr indiqué sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. J'ai juste une dernière question. Alors, vous parlez aussi dans les activités sportives du bricolage, des tâches ménagères, tout ça aussi finalement.
Oui,
c'est une forme de sport.
Activité de loisir, activité physique.
Tâches ménagères, c'est pour loisir.
Alors,
oui, hein.
Les tâches ménagères, c'est du mauvais pratique, pour rien. On doit partager donc ça avec son conjoint. Mais le bricolage, n'oublions pas le bricolage, le jardinage, ça fait partie.
La pêche, la pétanque.
La pêche, la pétanque, j'en ai cité le pédalo, le cerf-volant, parce
oui,
que
aussi.
Dans le Pas-de-Calais, il y a des grandes compétitions sur les plages du Nord de cerf-volant. Voilà, c'est du plaisir, mais c'est aussi une pratique, c'est bouger pour la santé.
Donc, dans tout ça, on doit trouver quelque chose qui nous plaît. Hein.
Oui,
docteur Patrick Bacard, merci. Hein. Je rappelle que vous venez de publier à vos marques Pré-Bouger, Sportifiez-vous aux éditions Chiron. Merci à France Bleu Nord qui nous a permis d'établir cette liaison. Demain, nous parlerons de la grippe H1N1. J'imagine que vous avez des questions à poser sur ce sujet. Un téléphone, le 33 1 56 40 18 22. Au revoir à tous, à demain.